a moins 3 degrés à Québec. On entre en période douce. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être tranquille au niveau des conditions météo. Vous dire que ce soir et cette nuit, il y a un 40% de probabilité d'averse de neige, risque de bruine verglaçante également, avec un minimum de moins 4 demain. Peut-être un peu de neige tôt en matinée pour la suite des choses. Alternance soleil-nuages, risque de bruine verglaçante encore une fois en matinée. Maximum de moins 1 vendredi, de la pluie intermittente, rien de moins. Maximum de 3 degrés. Et samedi, normalement, journée ensoleillée avec un maximum de 3 degrés sur les routes, Audrey.
Il y a quand même encore des bons ralentissements à l'heure où on se parle. Capitale-Est entre Henri IV et Laurentienne, c'est pas réglé. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid Hamel et la Capitale, toujours ce ralentissement qui est présent. Encore quelques problèmes aussi sur Henri IV Nord. Il y avait un accident un peu plus tôt là, qui faisait que ça ralentissait quand même pas mal. Si vous êtes à la hauteur, je vous dirais, de la route Sainte-Geneviève, entre, disons, route Sainte-Geneviève et la Capitale, là, c'est encore un bordel. L'entrée des ponts, toujours aussi compliquée si vous êtes sur Henri IV à partir, je vous dirais, de chemin Sainte-Foy jusqu'au pont La Porte. Et la rive sud, ça roule. Il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 texto.
Véro.
Deux affaires à surveiller dans l'actualité. D'abord, revenir sur les événements qui se déroulent cet après-midi à Minneapolis.
Ça brasse, là.
Alors qu'une femme a été abattue par un policier de l'immigration, les fameux ICE qui étaient là-bas. Il y a des manifestations qui se tiennent. Les événements qui se sont déroulés à 1,6 km de l'endroit où George Floyd a perdu la vie il y a quelques années de ça. Souvenez-vous,
plus,
le Black Lives Matter, ce que ça avait donné comme mouvement et comme manifestation. Le gouvernement de Trump qui maintient que l'agent a réagi en frais de légitime défense, alors que la vidéo, ce qu'on voit, c'est une femme qui, avec sa vanne carrément, bloquait la rue. Les agents qui sont arrivés dans un pick-up ont débarqué. Elle a fait une manœuvre pour reculer et sacrer son camp pour se sauver. Et c'est des agents qui se sont carrément pointés dans sa fenêtre où il y en a un qui a fait feu. Là, actuellement, il y a énormément de réactions de la part du maire démocrate de Minneapolis, du gouverneur de l'État aussi, Tim Walz, en disant « Ah, ils n'ont pas d'affaires ici. » La version du gouvernement, c'est carrément de jouer avec le narratif de ce qui s'est déroulé. La tension semble s'intensifier de ce côté-là.
En tout cas, pendant que Washington nous dit que c'était pour prévenir un attentat terroriste, c'est drôle, la seule personne qui a fui les lieux masqués, c'est le policier qui a tiré dans le char.
Il parle d'un geste de terrorisme domestique de la part de la dame qui a perdu la vie.
Elle essayait de fuir.
L'autre nouvelle, on s'en est parlé cette semaine, la députée Chrystia Freeland, la députée libérale qui a accepté un poste du côté de l'Ukraine comme conseillère au président Volodymyr Zelensky. Elle a publié dans les dernières minutes sur ses médias sociaux que c'est finalement le vendredi 9 janvier, c'est ce vendredi, qu'elle va quitter son siège. On se demandait ça prendrait combien de temps parce que, dans le fond, le gouvernement est à la ligne d'avoir un gouvernement majoritaire. Il manque un député. Là, à ce moment-ci, ce ne sera plus le cas. On devra partir en partiel pour le gouvernement de Mark Carney. Fait que Chrystia Freeland qui a choisi de faire ça plus tôt que tard.
Merci. Il est 5h10. J'ai des chiffres devant moi, ceux du CAA pendant la période des fêtes.
Oui.
Puis on le sait, ça a été, comment dire, croustillant.
Traite.
Pour les gens qui n'étaient pas à Touloum, là, avec Audrey puis son nouveau chum. Entre le 22 décembre et le 5 janvier, le CAA qui a fait 38 322 services rendus comparativement à 28 746 pour la même période l'an dernier. Donc, ça a monté du tiers ou à peu près. Les survoltages, ben, ça a monté de 95,6%.
L'année passée, je m'étais fait survolter.
Oui.
Il avait fallu que je change ma batterie après, mais le chiffre cette année, ça n'a pas le maudit bon sens, là.
Écoute, c'est 14 759 survoltages comparativement à 7 545, une hausse de 95%. Le temps d'attente moyen pour l'ensemble des services, pas mal mieux qu'à l'urgence, 59 minutes. 11 000, ou plutôt 1115 batteries remplacées avec le service d'assistance batterie du CAA.
Je savais pas qu'il pouvait faire le remplacement.
Je savais pas non plus. Probablement que lui, il savait, par exemple. Chroniqueur automobile de Gravel dans le retour, Sam Tremblay-Michaud. Salut!
Allô!
Bonne année!
Mais bonne année aussi!
Ça va bien?
Ça va très bien.
Toujours?
Vraiment,
hein?
Ben oui.
Le gars vient de faire le parc et un sourire d'en face. Ça vous donne une idée?
Ça va pas bien.
Ben, faire le parc, ça implique aussi conduire une voiture. Donc, à partir de ce moment-là, je suis de bonne
humeur. T'es heureux, OK, c'est
automatiquement.
Le CAA a travaillé fort pendant la période froide, puis en même temps, c'est un peu normal. Là.
Oui, puis probablement que si on rapportait ces données-là avec les périodes de pic de froid qu'on a eues l'année dernière, on aurait eu des statistiques qui auraient été beaucoup plus semblables. C'est parce qu'on se rappellera que l'année dernière, il a fait beaucoup plus chaud aussi.
Oui.
L'année dernière. Donc, tu sais, on sait que la température était plus clémente, donc moins de problèmes de batterie disponibles aussi. Cette année, on a eu un froid précoce, donc effectivement, les batteries ont trouvé
précoce et durable, hein?
Précoce et durable, oui, vraiment.
Tu sais, d'habitude, on a un genre de 2-3 jours peut-être. Là, ça a été quasiment un 10 jours de fret.
Et on perd souvent nos bonnes habitudes quand ça arrive aussi vite que ça. Hein. J'ai vu beaucoup de gens avoir des problèmes de survoltage en lien avec des batteries qui se déchargeaient trop rapidement parce que on se rappelle, quand on essaie d'allumer notre véhicule, de le démarrer comme il faut, c'est que notre batterie a le besoin d'avoir le plus d'énergie possible pour faire fonctionner le démarreur du véhicule simplement. Et quand on a des courts déplacements à faire, tu sais, exemple, on veut changer de bord de rue de notre voiture, on veut juste parce que le déneigement va passer, donc on allume le véhicule, on le tasse ensuite.
Puis on l'arrête.
Bien là, on vient de tuer notre batterie. Parce que notre batterie, elle n'a pas eu le temps de se recharger aucunement. L'alternateur n'a pas pu fonctionner comme il faut à bord du véhicule pour bien faire recharger la batterie. Donc, vous venez de prendre le peu d'énergie emmagasinée que la batterie elle avait dans tout ce froid-là pour démarrer votre véhicule, mais l'éteindre rapidement. Donc, elle n'a pas eu le temps de se recharger. Et il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre au jeu des courtes distances.
Mais je ne savais pas combien de temps il faut que tu laisses rouler ton char pour être sûr que tu ne tues pas ta batterie.
Il n'y a pas de chiffre magique. Moi, ce que je dis, c'est surtout d'avoir conscience qu'un véhicule, il faut que ça se réchauffe. Donc, c'est exemple, vous êtes capable d'aller faire un bout de chemin avec votre voiture, de faire de l'autoroute peut-être également. Moi, j'aime ça dire aux gens, quand vous êtes bien dans l'auto, là, tu sais, que l'habitacle est chaud, que vous vous sentez bien aussi.
Que vous avez arrêté de trembloter, là.
Puis pas juste sur, à l'arrêt, là. Tu sais, qu'on circule avec le véhicule, on va faire un trajet avec lui. Là, on donne une chance à notre mécanique de faire son travail et de recharger aussi notre batterie. Moi, je pense que, tu sais, un bon 20 minutes,
Profiter, mettons, du moment où tu dois déplacer ton char pour peut-être aller faire une commission sur une bonne distance. Là.
C'est la meilleure chose à faire quand on a des grands froids comme ça. On s'assure que notre batterie, bien, au moins, quand elle va revenir à sa position initiale, elle va être capable de refaire le démarrage.
Allez faire votre commission, mais à l'étape.
Oui,
c'est
exact.
Bon?
Puis vous pouvez ramasser des petites saucisses dans le bacon, sont délicieux.
La tortille est pas pire aussi, semble-t-il.
Oui, je me suis fait dire ça aussi.
Sam, il y a de nombreuses personnes qui se sont fait prendre les culottes à terre un peu parce que, oui, il y a des déplacements qui se font dans le temps des fêtes, mais il y a aussi des périodes où on bouge moins. Et pour les gens qui ont eu à déglacer leur véhicule, mettons, après l'avoir laissé à l'abandon pendant 2 jours parce que tu bouges pas de chez vous ou pendant une semaine parce que tu étais à Tulum avec ton nouveau chum, t'as-tu des trucs que pour... Je vais arrêter après aujourd'hui, c'est
pour
promis.
Ces gens-là.
Okay, pour ces gens-là.
Je demande pour une amie. Oui. Y a-tu des choses que tu peux apprendre à des gens qui pourtant ont un âge vénérable, qui conduisent depuis des années, tu sais, des petits trucs de base pour dégivrer un pare-brise, par exemple?
Avant de parler dans quel sens on prend le dégivreur, là, on s'est fait proposer une recette, nous autres, hier, puis je veux juste vérifier si ça est bonne.
Oui.
De l'alcool à friction?
Oui.
De l'eau?
Oui.
Dans un push-push?
Oui.
On met ça à grandeur?
Oui.
On attend un petit peu?
Oui.
Ça fonctionne.
Très bien.
Tu peux
prendre du lave-glace aussi?
Mais je peux vous parler de quantité. Savez-vous quel est le bon mélange?
C'est 3-1?
C'est 2/3 d'alcool pour 1/3 d'eau.
Pour un tiers d'eau, OK.
Et là, vous allez avoir vraiment un mélange que vous pouvez aussi garder dans votre véhicule parce qu'il ne va pas geler avec 2/3 d'alcool à friction.
Non, mais si ton char est gelé, c'est plate d'aller chercher ton truc dans ton véhicule.
Oui, mais tu sais, mettons, ouvrir une porte à un moment donné, il faut réussir à le faire.
Il y en a qui ont eu de la misère, Sam, à ouvrir des portes. Là.
Écoute, pic-papel!
Je fais partie de ces gens-là. J'ai ma flotte corporative, j'ai ma flotte de véhicules, j'en ai plein d'autos. Fait que j'en ai quelques-uns qui étaient pognés dans la glace aussi.
Non,
ça prend un peu de patience pour ouvrir la porte, mais au moins, si on le garde dans l'auto, on l'a avec nous. T'sais, si on est en voyage quelque part et qu'il y a du verglas, au moins on l'a avec nous. C'est un mélange qui fonctionne bien parce que vous allez voir disparaître littéralement devant vous la glace en mettant le mélange entre les deux. Le meilleur truc aussi, c'est d'être patient. T'sais, souvent, on veut que ça se règle rapidement.
Oui.
Dites-vous une chose, quand on a du verglas à la maison, il faut gratter nos marches. C'est moins le fun aussi. Là. C'est toujours plus compliqué, c'est toujours plus long. C'est le même principe aussi pour votre véhicule. Ça vaut la peine de laisser tourner votre véhicule quelques minutes aussi hein, pour le faire travailler. On parlait des dégivreurs, un sur la lunette à l'arrière, il y en a un à l'avant également qu'on peut envoyer vraiment de l'air chaud sur le pare-brise. Il y a un truc aussi qui est agréable, c'est de rabattre vos pare-soleil. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années.
C'est vrai, tu nous as déjà parlé de ça.
Quand tu dis les rabattes,
Faire comme s'il y avait du soleil dans ta face, le descendre.
Exact. Tu les descends complètement et comme ça, quand l'air chaud va monter sur le pare-brise, parce que le but du dégivreur du pare-brise, c'est d'envoyer de l'air chaud en grande quantité avec la soufflerie du véhicule sur le pare-brise.
Ouais.
Si vous mettez les pare-soleil en position active, ils vont bloquer l'air là. Donc ça va chauffer plus rapidement le pare-brise. Oui, exact. Fait que ça peut être une technique agréable à utiliser aussi pour essayer d'améliorer votre rendement. Le problème, c'est que tu sais, des fois, il y a les fenêtres de côté, il y a de la glace un peu partout sur le tour.
Il y en avait à grandeur.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je vous dirais qu'il y a des gens qui sont avantagés plus que d'autres. Si vous avez un véhicule foncé, une couleur noire, bleu marin, quelque chose du genre bleu marine, c'est plus facile d'avoir un véhicule qui va se décongeler parce que le soleil va donner un coup de pouce. Donc, on va être capable d'avoir une température de peinture qui est augmentée. Si vous avez un véhicule pâle comme blanc ou gris pâle, choses comme ça, il n'y a pas beaucoup de miracles pour essayer d'enlever la glace sur la carrosserie du véhicule. Il faut vraiment faire attention parce que si vous prenez votre balai avec le bout de l'autre côté là, pour vraiment gratter,
tu vas défoncer ta peinture.
Graffiner son, il y a vraiment des grosses chances que vous graffiniez votre véhicule, puis ça peut être très nocif de le faire.
Pourquoi à chaque fois que j'utilise mon dégivreur puis qu'il y a de la glace, je pète mon dégivreur?
Là, il parle pas ce qu'il y a dans le char, il parle de la petite gratte qui est au bout de ton balai là.
Ah oui, ça c'est peut-être parce que tu as un balai de mauvaise qualité.
J'ai d'abord eu un balai de mauvaise qualité.
Tu t'es dit je vais me rabattre sur du gros
je
balai.
Je l'ai pété one shot. Hein? J'ai monté la valeur de mon balai. Je l'ai pété one shot. Là, j'avais, écoute, ce balai-là était comme une pelle télescopique. Là.
Ah oui, oui, OK, tu peux l'extensionner.
J'étais capable de balayer tous les chars de toute la rue en restant dans mon entrée. OK? Okay, ouais. Il y avait 8 vitesses là-dessus. Là. J'en revenais pas. C'est l'affaire la plus impressionnante technologiquement que j'ai eue dans mon char ever. Puis des fois, je traîne mon portable.
Okay? Je comprends.
Fait que one shot. 3 secondes.
Il a cassé. Ah, ça, c'est de valeur.
J'ai émis une théorie.
Oui.
Denis ne sert pas des petites dents de son grattoir.
Ah ouais, pour préalablement racler un
peu. Il savait pas que ça servait à ça.
Oui, oh, ça, God. Ça peut bien fonctionner. Mais moi, vois-tu, je suis pas
même Audrey, t'as jugé.
Ben. Ouais.
J'ai pas jugé, j'ai constaté.
Ah, tu m'as jugé.
J'ai senti un peu de jugement aussi.
Ouais, tu l'as senti.
J'ai senti un peu quand même.
Oh, done.
Excuse-moi,
Audrey. Ouais, c'était foyant, mais ouais, c'est ça.
Il y avait un peu de jugement là-dedans. Mais je l'utilise pas non plus tout le temps.
C'est comme si je disais, ma blonde m'a laissé. Ah, ouais, pourquoi? Ben, parce que j'ai couché avec une autre fille. Oh, done.
Come on.
C'est un peu, ouais.
Come on.
C'était jugement.
Il y en avait un peu.
Ça serait du jugement si, par exemple.
Fait quoi, ça faut utiliser les trois dents de l'autre bord.
Ben peut-être, mais sinon, je t'invite à prendre le balai le plus simple. Moi, au-dessus, j'ai eu aussi les balais les plus chers. J'ai jamais brisé, par contre, de grattoir. Là. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Mais j'ai souvent des petits balais très, très simples, les plus cheap que tu peux avoir. Mais quand ils sont simples et qu'ils n'ont pas trop de technologie dedans, on dirait qu'ils sont plus durables.
J'aimerais que tu rappelles les trucs que tu nous as donnés récemment pour le givre intérieur dans les voitures, parce que là, on a eu aussi de ça. Là.
Oui, on se rappelle, moi, c'est mon meilleur truc. Secouez-vous les pieds avant de rentrer. Ouais. Dans votre char. Il n'y a pas plus de meilleurs conseils à vous donner. C'est le meilleur conseil. D'enlever de la neige dans votre voiture, c'est de l'eau. Vous rentrez de l'eau dans votre auto. Si vous avez en plus un tapis comme un bac là, qui va conserver l'eau, mais l'eau va rester là. Ça va créer de l'humidité. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Donc, je sais que c'est tannant, mais il faut se tourner. On secoue nos bottes puis on enlève de la neige dans le véhicule. Ça va vraiment vous aider à tuer l'humidité.
Depuis que tu nous as dit ça, je le fais littéralement toutes les fois.
Ça fonctionne-tu?
J'ai l'air complètement épaisse. Ben oui, ça fonctionne.
Ben voilà.
Mais je m'assieds sur le côté là, puis on dit je veux comme tu charries
ben oui.
Pour qu'il y ait absolument rien qui rentre. Je suis là puis je frappe mes pieds pendant comme un bon 10 secondes.
T'as de l'air moins épaisse à faire ça que de prendre ta carte Desjardins ou Visa pour gratter l'intérieur de ton pare-brise.
100% d'accord avec cette affirmation. Il y avait aussi la fameuse litière à chat.
Dans des bas.
Qu'on pouvait mettre dans des bas pour essayer de capter l'humidité. Il existe aussi vraiment des bidules là, qu'on achète pour enlever l'humidité dans les véhicules. Moi, je préfère ça parce que ça sent pas la litière à chat. Là. Fait que vous pouvez avoir comme vraiment...
Il y a des litières avec des odeurs de Febreze maintenant.
Mais j'ai pas de chat. Je connais pas beaucoup ça, là, mais est-ce que les litières...
Oh, t'aimerais c'est ça, des chats, là.
Les litières que j'ai senties sentent pas très bonnes, en tout cas.
Ben surtout quand tu as du pipi dedans, mais idéalement, tu prends une litière neuve.
Ben j'imagine.
On me dit.
En tout cas, on me conseille.
Si tu mets ta vieille litière dans ton char, là, ça va pas bien.
Oui, c'est ça. Non, exact.
On va bien pantoute.
Non, ça, c'est pas très bon, là. Mais il existe un petit bidule, là. Pas un bidule, un produit qui se vend pour capter l'humidité également. Dans le fond, ça vous prend un peu un déshumidificateur d'habitat.
Un
déshumidificateur.
Okay.
C'était dur, hein?
Hey, elle a fil, hein?
Non, mais elle fait bien. Elle a bien fait, là. Je l'ai travaillé, déshumidificateur. Humidificateur, là. Ça n'a pas été facile.
Hey, on a eu deux questions par rapport aux frettes. D'abord, tu disais quand on déplaçait l'auto, ouais. Pour la batterie et tout ça, si tu prends pas ta voiture, par temps froid, mais que tu ne l'as pas avec le démarreur à distance?
Bonne question.
Est-ce que ça réchauffe assez puis ça recharge assez la batterie?
La réponse est non, et pas du tout.
Moi, je l'ai fait une couple de fois dans le temps des fêtes juste pour dire que je partais mon char.
Bon, c'est littéralement vider la batterie. C'est juste ça qu'on a fait. Les démarreurs à distance par temps froid, si vous allez me dire c'est absurde parce qu'on achète un démarreur à distance...
Pour ça?
Pour ça. Oui. Mais il y a comme temps froid et il y a temps froid beaucoup aussi. Il y a comme un jeu à avoir entre les deux. Quand on a du moins 21, du moins 23, moi, ce que je vous conseille toujours de faire, puis... Tu sais, je vais prendre un peu l'exemple typique parce que ça arrive souvent. On démarre notre véhicule avec le démarreur à distance et là, on prend le temps de faire notre café, on ramasse nos sacs, on arrive, puis le cycle est terminé, donc le véhicule s'est éteindu. On arrive pour le redémarrer, mais vous venez de faire exactement ce que je comptais au début de la chronique.
Ouais.
Vous venez de vider l'énergie de votre batterie pendant 15 minutes pendant qu'il chauffe, mais l'auto n'a pas roulé. Donc, la batterie ne s'est pas rechargée.
Bah, bravo.
Donc, ça ne fonctionne pas. La même chose aussi, tu sais, les démarreurs à distance, souvent, le danger, c'est que quand on arrive dans l'auto, on fait une mauvaise manipulation, on éteint le véhicule. Je pense que l'important, moi, je pense surtout en hiver, c'est de prendre le temps de y aller, de décoller pour le voir, aller le véhicule, mais s'assurer qu'il ne va pas s'éteindre. L'ennemi, c'est ça. Puis un démarreur à distance, mais lui, il va essayer tant aussi longtemps que le véhicule décolle pas. Donc, s'il a essayé une première fois et que l'auto n'a pas démarré, vous venez de vider votre batterie. Mais là, lui, il va se réessayer. Là. Il va réessayer tant ou si longtemps là, qu'il arrive au bout de la batterie. Puis à un moment donné, ça ne marche pas.
C'est-tu pareil pour les véhicules électriques?
Les véhicules électriques, la beauté l'hiver, c'est qu'eux, il fait juste très froid. Ils deviennent des gros blocs de glace parce qu'ils n'ont aucune manière de se réchauffer, à part des thermorégulations de la batterie. Mais c'est des véhicules qui n'ont pas d'enjeu de décollage parce que c'est l'énergie de la batterie qui va le faire.
Fait que
c'est
vrai. Tu peux le démarrer à distance.
Vraiment.
Pas de problème.
Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Même que s'il est connecté,
ça
va prendre une borne bientôt chez ton chum. Il faut que tu t'organises. Vraiment, c'est urgent. Mais une borne à la maison, c'est vraiment... C'est parce que ça change complètement l'utilisation d'un véhicule électrique.
Sinon, tu cours constamment après des bornes.
Oui, et tu ne peux pas préchauffer ton véhicule aussi. Fait que l'avantage, c'est quand on a un véhicule électrique, on peut utiliser l'énergie de notre maison pour réchauffer notre véhicule, donc sans prendre l'énergie de la batterie. Donc, quand on part, le véhicule, il est chaud, il est déglacé, mais il est aussi capable d'utiliser 100% de la batterie pour son autonomie et non pour réchauffer
l'habitacle. C'est fantastique. Là. Moi, j'ai comme la petite application, et puis là, j'ai demandé de partir avant que j'arrive, puis là, il fait comme 25 dans mon char, puis c'est le bonheur. Puis
comme à Toulouse.
Oui, pareil comme à Toulouse.
Moins les DJ, moins l'alcool.
Ouais.
Puis non, mais sérieusement, ça fait comme. J'ai l'impression, du moins, que ça fait une différence parce que quand je pars, tout va bien. Là.
Oui, mais lui, il a froid pareil. Il faut que tu te rappelles que c'est un char qui a frette. Puis un char électrique, c'est un danger l'hiver aussi. C'est que, tu sais, essaie d'éviter les lave-autos quand il fait très, très froid parce que l'eau ne va pas s'évacuer comme une voiture thermique. Une voiture thermique, on a un système d'échappement qui chauffe. On a un moteur thermique à l'avant
qui chauffe à bien des places.
Exact. Puis là, on n'en a pas de système de chauffage dans un véhicule électrique.
Mais là, on fait comment?
On espère avoir un garage intérieur ou quelque chose du genre.
OK.
Bonne chance. On a une autre question de Fred. Sumo, les pare-brises craquent l'hiver. Il dit, mon camion est neuf.
Ça m'est arrivé.
Mais craque, on fait une fissure dedans. Ouais. Là. Oui, ça se peut. Et le gros problème de ça, c'est le choc thermique. C'est que vous avez probablement eu un éclat sur votre pare-brise que vous n'avez pas remarqué. Peut-être pas gros, juste assez petit pour ne pas le remarquer. Et quand on a mis de l'air chaud pour réchauffer l'habitacle, mais là, il y avait un contraste avec l'extérieur qui était très froid. Et quand il y a une petite fissure, bien là, ça crée une grande fissure.
Ça l'a fendu.
C'est ça, exactement. C'est le choc thermique l'hiver là, qui ne donne vraiment pas un coup de pouce pour les pare-brises. Là. Donc, ouais, c'est à surveiller.
On a ramassé beaucoup de millions de dollars grâce au photoradar dans la dernière année. 133 millions de dollars.
Oui.
C'est beaucoup?
Oui, c'est beaucoup. Ça a été payant. Les fameux photoradars qu'on connaît, il y en a au feu rouge, il y en a des fixes, il y en a des mobiles aussi.
Ils sont toujours avertis?
Ils sont toujours avertis, toute la gang. Donc, c'est un peu ce que je trouve le plus ridicule dans l'histoire.
C'est de l'argent ramassé à terre.
Et à tous les fois, tu sais, j'ai pas... Je vais me confesser, je n'ai eu un moi-même. J'en ai eu un. J'étais dans une zone de 90. Je roulais à 106 km/h en pensant être correct parce que je me disais un policier à 106 m'aurait probablement pas arrêté.
Non.
Et j'étais concentré à essayer des nouveaux systèmes de conduite et le photoradar, la lumière a flashé. Mais je vous jure, je me suis pas fâché après personne parce que j'ai eu à peu près 6 panneaux avant qui me disaient qu'ils s'en venaient le
c'est
photoradar.
Toi, pas vu,
non, j'ai vu. Je les ai vus. C'est juste que je me suis dit, je devrais être correct. J'ai pris une chance. Ouais. Maintenant, je sais que je peux plus. j'ai appris à coup de 80 $.
C'est zéro le jeu, là. Avec la
exact. Eux autres, pas compliqué, c'est qu'ils vont allumer dès que la vitesse est dépassée selon un certain standard qui est mis en application avec les photoradars. Ce qu'on voit surtout, c'est que les photoradars dans les chantiers ont été extrêmement payants cette année, surtout dans le coin de Montréal. On a, dans le coin de Louis-Hippolyte Lafontaine, on a des travaux actuellement.
Je suis plus à l'aise avec les photoradars dans les zones de travaux.
Oui, bien, j'espère, c'est pour protéger les gens qui travaillent.
Plus que les trappes à tickets. Là. Moi, Robert Bourassa, direction nord à hauteur de Le Bourgneuf, je trouve ça moyen.
Mais, ouais. Mais en même temps, il y a un réflexe quand t'es dans le trafic puis que ça bouge pas. C'est quand ça se met à bouger, tu bouges. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se font prendre dans ce genre de situation-là où... OK, là, ça fait 45 minutes que je pognais, puis là, ça débloque. Ah ouais, on part.
Je paye.
Ça se peut-tu?
Ça se peut très bien. Mais écoutez, à lui seul, ce radar-là a ramassé plus de 15 millions de dollars.
T'as
il a fait 41 572 contraventions à lui seul quand même. Donc, on voit qu'il y a vraiment des comportements routiers qui sont problématiques dans les chantiers au Québec. Là, on voit qu'on ne respecte pas vraiment les limites. Et ben, que voulez-vous? Ça finance l'État.
Ben oui.
Ça donne l'argent à l'État. Et vous faites peut-être partie de ça comme moi. Vous avez financé peut-être une partie d'une route réparée quelque part au Québec.
Moi, un truc, puis je suis pas chroniqueur auto. Tu sais que je connais ça, Richard, t'as appris à me connaître un peu.
Un grand fan, hein?
Ouais, c'est un truc. Que j'ai l'expérience, la maturité, le fil de nos chroniques, hein, j'en retiens des informations. Souvent, même tout le temps, avant un photoradar, il y a au moins une pancarte photoradar.
Minimum.
Je dis ça, je dis rien, là. Mm-hmm. C'est peut-être un truc qui peut vous servir.
Mais là, je sais pas si t'as dit ça en public, là. J'espère que la police débarquera pas ici pour t'arrêter.
Non,
là,
ils aiment pas que... ça quand on parle de leurs opérations radar et tout ça, parce qu'il faut pas le dire.
Exact.
Mais le photoradar...
Il y a un panneau, guys.
J'ai une information exclusive à vous partager. Avant les photoradars que le gouvernement du Québec installe, il y a des pancartes.
C'est un appareil photo
avec
des flashs.
Oui.
C'est écrit
c'est
vitesse.
Marqué. Oui. C'est des photos radars.
Oui. Bon. Ça, généralement, ça peut vous aider.
Vous l'aurez entendu en premier dans le retour à Boulevard 102.1. Hey, on va se parler de prix de voiture, si tu veux bien. Oui. Là, ça a l'air, t'es pas content, là.
Ben, c'est pas que je suis pas content, c'est que je trouve ça ridicule. Tu sais, on parle souvent du prix des voitures qui est complètement exagéré présentement.
Oui, il y a eu des nouvelles là-dessus cette semaine.
Oui, puis tu sais, on en parle souvent, puis moi, j'ai envie de vous dire, c'est notre faute à nous, hein, collectivement, parce que vous allez me dire, ouais, mais là, tu sais, les constructeurs nous proposent pas les bons produits, on a juste des véhicules qui sont chers. C'est pas tant vrai. Je peux vous nommer quand même plusieurs bons choix de véhicules sur le marché en bas de 30 000, mais la moyenne d'achat actuellement au Canada et même au Québec est à 63 000 $ pour un véhicule moyen neuf vendu sur le territoire. Ce qui est complètement ahurissant. Et ça arrive parce que ben on consomme des chars qui sont chers aussi. Donc, pourquoi les constructeurs nous enverraient des chars pas chers quand on est prêt à payer, en moyenne, 63 000 pour notre prochain véhicule?
D'où la disparition de bien des modèles sous-compacts et ben, des modèles qui étaient considérés comme plus abordables.
Faut pas trop se surprendre, rendu là. T'sais, tout le monde fait plus d'argent là-dedans, sauf nous qui avons des plus gros paiements et qui nous coûtent plus cher de rouler un véhicule. Et là, ben on a des constructeurs qui reviennent sur certaines décisions. L'année dernière, c'est Stellantis qui a vraiment brillé par ça. J'espère que le constructeur en 2026 va se trouver une aire d'aller parce que là, on revient sur plusieurs décisions et on a ramené dans les pick-up 1500, les camionnettes pleine grandeur qu'on voit sur les routes, un moteur V8. On revient avec un V8 5.7 litres qui datait de Jérusalem. Là, c'est vraiment un vieux moteur à moulin qui existe depuis très longtemps. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça risque que c'est de la vieille machinerie, qu'on le veuille ou non. Okay? Et là, ben, on arrive avec le retour de ce V8-là à l'ère où on essaie d'améliorer les combustions des moteurs thermiques pour leur donner une seconde chance. On arrive avec une vieille patente et on s'en va vendre ça. Écoutez bien ça, à un prix de départ à 68 195 $ pour un Ram muni de moteur V8 qui date, comme je vous dis, de 20 millions d'années.
Ça n'a pas de bon sens.
Je trouve ça complètement ahurissant et je me suis amusé à faire des calculs. Le même moteur, parce que c'est le même moteur, était vendu aussi en 2017 et probablement en 1901. Et ce moteur-là se vendait à un prix de départ à 54 195 $ en 2017. Et aujourd'hui, pour la même variante, donc un Ram Sport 1500 V8, avec le EMI, le 5.7, on est à 79 000 $ C'est 25 000 $ de différence entre le même camion à peu près. OK, l'habitacle, OK, il a changé, mais il n'y a pas 25 000 $ d'ingénierie là-dedans,
non.
Certainement, pour justifier cette facture-là. Et là, je commence à vous dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime les voitures, j'ai des chars manuels, j'aime les chars à gaz, j'aime aussi les chars électriques. Je suis un gars ouvert à bien des affaires.
Toi, dès que ça roule. Hein?
Mais de voir des factures comme ça à 80 000 $ pour un camion moindrement équipé, avec la machinerie agricole, là, je trouve qu'on commence à pousser le bouchon pas mal. Et j'espère que les consommateurs, nous, seront avertis de ça. Qu'il existe vraiment des mécaniques plus évoluées dans l'industrie des camions. Il existe des solutions qui sont plus performantes pour un prix qui est plus raisonnable.
Je pense que c'est le propriétaire de tous les Albi, le géant, qui était en entrevue au début de la semaine puis qui parlait justement de la hausse du prix des véhicules.
Denis Leclerc.
C'est ça son nom?
Oui, il est venu au podcast RPM deux fois.
Ah, OK.
Je connais bien Denis.
Monsieur Leclerc, Leclerc qui disait dans les prochaines années, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va enlever des gadgets de plus en plus dans les voitures pour faire baisser le prix des chars. Vois-tu la même tendance?
Moi, ce que Denis m'avait annoncé aussi, c'est que, parce que lui, bon, il gère des inventaires de plusieurs concessionnaires, donc j'avais trouvé intéressant son information que les constructeurs lui envoyaient de plus en plus des versions d'entrée de gamme de des modèles. Vous avez une Mazda 3, par exemple, il y a un modèle GS d'entrée de gamme, il y a le GX, excusez-moi, on peut se rendre dans le GS, GT, on peut aller chercher des Suna et compagnie. Il disait que des modèles GX et GS rentraient de plus en plus. Ce qui n'était pas vraiment le cas durant la pandémie, on dirait qu'on envoyait plus des GT, des modèles plus chers. Donc lui, ce qu'il a vu arriver tranquillement, c'est plus de modèles d'entrée de gamme. Moi, je pense pas que la faute principale du coût élevé des véhicules est reliée à l'équipement nécessairement. Mm-hmm. C'est un écran ou une caméra de recul...
C'est la caméra qui roucoule.
Qui roucoule, la caméra de
c'est
recul.
C'est la caméra d'Audrey.
Oui, voilà.
C'est tout le monde.
Ça coûte rien. Ça coûte rien, ces accessoires-là. Un écran là, ça, de 12,3 pouces, ça coûte rien pour les constructeurs automobiles. Même chose pour le fil qu'il faut passer jusqu'en arrière pour avoir une petite caméra de recul. C'est pas ça qui justifie les prix. Il y a une guerre aussi à l'équipement parce qu'on veut avoir plus de technologie. C'est vrai que quand on tombe dans des versions avec des sièges climatisés, des systèmes de son avec des marques haut de gamme, on a vraiment des motorisations turbo, du 4 roues motrices, des choses comme ça. C'est vrai que la facture peut gonfler beaucoup, mais il y a des véhicules quand même qui exagèrent juste en termes de prix, point barre, pas parce qu'on a mis plus d'équipement, juste parce que le marché a littéralement c'est élevé de
manière un bon exemple tantôt,
exponentielle. Ben oui. Exactement. Et d'un coup, la pandémie a eu le dos large, mais on a augmenté rapidement les prix des véhicules. Donc moi, je pense que qu'est-ce qu'on va voir, et moi je rejoins beaucoup Denis, c'est peut-être plus de véhicules d'entrée de gamme qui vont se faire envoyer par les constructeurs automobiles dans les concessionnaires. Et ça sera à nous, consommateurs, de se dire « Hey, est-ce que j'ai besoin du système de son de marque Klipsch à 23 haut-parleurs et à 1228 watts dans mon nouveau véhicule? » La réponse est probablement pas du tout. Et vous allez peut-être vous convaincre que le système 8 haut-parleurs de base fait vraiment le travail.
Sam Tremblay, Michaud, c'est un plaisir de te retrouver cette année.
Mais oui, merci.
Puis merci d'être venu nous aider pour notre gravel du temps des fêtes.
C'était vraiment le fun. J'adorais ça vous voir, c'était fun.
On a eu des bons feedbacks. Puis c'est toujours un plaisir de jaser voiture avec toi.
On s'en rejoint bientôt.
Toi, ton prix, as-tu monté en même temps que les voitures? Ou
Ah non, moi, je suis pas cher.
Pas cher, parfait. Pas cher. On aime ça de même.
Abordable.
Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur auto, 17h34. Courte pause, on revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard. Gravel.